Voilà, bonsoir. Tous ceux que je n'ai pas salués déjà, et les autres, je vous resalue au passage. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Job, le chapitre 42. Nous allons voir quelques versets ensemble, un simple texte. Job, chapitre 42, verset 1er. Job 42, verset 1er, c'est les paroles de Job une fois qu'il a vécu son épreuve, que vous connaissez. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Mais maintenant mon œil t'a vu. » Et je crois que c'est le cas de beaucoup, si ce n'est tous les hommes de la terre, les hommes et les femmes. On a entendu beaucoup parler de Dieu. Beaucoup de personnes prononcent des choses sur Dieu, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les collègues au travail, que ce soit au lycée, à l'école, les professeurs, etc. Toutes sortes de personnes émettent des jugements sur Dieu. Et notre oreille, qui est à côté de ces bouches-là, entend parler de Dieu. Et on ne sait pas forcément si c'est des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mais peu de personnes peuvent dire « Mon œil t'a vu ». Peu de personnes peuvent le dire. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse ensemble étudier certaines choses dont on nous a sûrement parlé concernant Dieu, mais qu'on puisse non seulement les entendre, mais les voir aussi dans notre vie. Et il y a trois caractéristiques, je vais dire, trois qualités, trois attributs que l'on donne à Dieu de façon logique. Quels sont-ils ? Trois choses qu'on dit, si Dieu existe, alors forcément, Dieu, il a ça. Bon, la bonté, d'accord. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Nous, on est d'accord parce qu'on connaît la Bible. Mais tous les hommes ne croient pas que Dieu est bon. La puissance, voilà. Quelque chose. C'est très simple, hein. Vous allez voir. J'ai pris trois caractéristiques. Omnipotence. Omni. Omniprésence. Et le troisième ? Omniscience, voilà. Ce soir, on va étudier ça simplement, mais de tout notre cœur. Et on va commencer par l'omniprésence. Omniprésence qui signifie que Dieu est partout. Et pour cela, on va lire le psaume 139, pardon, verset 7. Un passage aussi qui est bien connu. Psaume 139, verset 7. C'est David qui dit cela. « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. » Où irai-je loin de ton esprit ? Et effectivement, Dieu est omniprésent, dans ce sens qu'il est partout. Il est partout, que ce soit dans la fleur que l'on regarde, que ce soit dans la nature qui nous révèle sa majesté. Dieu est partout parce qu'il est à l'origine de toute chose. Dieu est partout parce que c'est lui le créateur de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous pouvons sentir, de toutes les couleurs que nous voyons, de toutes les musiques que nous entendons. Dieu est le créateur. Et même s'il y a des intermédiaires, dans ce sens qu'il y a certaines personnes qui composent ces musiques, symphonie, c'est un orchestre qui est en train de la jouer, mais qui a créé l'orchestre ? Qui a créé l'instrument ? Qui a créé les personnes qui jouent ? Qui a créé l'archer ? Qui a créé le cheval qui a permis que l'archer soit fait ? Etc, etc. Dieu est partout. Mais il faut mettre un mais à cela. Parce que Dieu n'est pas partout de la même manière. Par exemple, la Bible nous dit que nous sommes, nous qui croyons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église, et l'Église, vous savez comme moi que ce n'est pas le bâtiment, c'est les personnes qui composent l'Église. C'est l'Assemblée des croyants et le Temple du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire que Dieu se manifeste de façon particulière quand il y a le rassemblement de ses enfants. Donc ce soir, nous pouvons dire que Dieu est présent de manière particulière. D'autant plus qu'il nous a fait la promesse que si deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Est-ce que ça veut dire que quand d'autres personnes ne sont pas réunies en son nom, il n'est pas là ? Il est là, mais il n'est pas là de la même manière. Quand les personnes sont réunies en son nom, alors Dieu peut manifester sa présence. Dieu peut parler au travers de sa parole. Dieu peut faire toutes sortes de choses. Dieu peut répondre à des prières quand nous sommes réunis en son nom. Ce qui n'est pas le cas quand on n'est pas réunis en son nom. C'est évident. Mais il faut aussi faire attention, parce qu'il y a certaines personnes qui croient que Dieu est partout, et il est tellement partout que tous les objets sont Dieu et que même les personnes sont Dieu. Et il y a une espèce de confusion qui se crée en croyant que Dieu, et d'ailleurs ils n'appellent pas souvent ça Dieu, ils appellent la nature ou la force supérieure qui est dans tout, tout en tous, et c'est un espèce de gros mélange qui fait qu'on ne sait plus qui est quoi, qui est qui. Dieu est partout, il n'est pas partout de la même manière. Et il y a un exemple très simple. Vous prenez une éponge, et vous prenez de l'eau, un lavabo rempli d'eau. Vous jetez l'éponge dans l'eau, et l'eau va s'imprégner dans l'éponge, mais à aucun moment, l'eau n'est l'éponge, ni l'éponge n'est l'eau, si vous avez suivi. Et c'est la même manière, il y a Dieu, quand nous sommes en communion avec lui, quand nous sommes dans sa présence, quand au moyen de la prière nous pouvons avoir accès à sa présence par sa grâce, parce qu'on ne mérite rien comme ça a été dit, et bien à ce moment-là, Dieu il vient en nous. Et d'ailleurs, si on a entendu parler de l'omniprésence de Dieu, la Bible, elle ne nous dit pas, c'est bien de savoir que Dieu est omniprésent et ça suffit. Elle nous dit non, il faut aller plus loin. On sait que Dieu est omniprésent, mais Dieu veut surtout habiter dans notre cœur. Dieu, il veut être présent en nous. Dieu, il veut habiter en nous par son Saint-Esprit. Voilà comment on peut voir Dieu ce soir, de manière concrète. On a entendu parler de sa présence partout, mais on veut qu'il soit présent en particulier dans mon cœur, de manière concrète. C'est-à-dire que je puisse faire sa volonté, que je puisse me plier à ses exigences, que je puisse simplement lui obéir et que je puisse voir sa bénédiction dans ma vie. Parce que quand Dieu est là, vous vous souvenez, ceux qui étaient là dimanche, l'Éternel fut avec Joseph, partout où il a été, et bien c'est le cas, on a la bénédiction de Dieu qui est là. Et Dieu veut et désire profondément habiter en nous, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, non pas pour nous montrer ce qui ne va pas et le laisser tel quel, mais toujours pour notre bien. Et ce soir, Dieu pose la question, est-ce que vous voulez, chacun en particulier, que j'habite en vous ? Est-ce que c'est votre désir ? En tout cas, pour nous qui connaissons le Seigneur, nous savons que c'est déjà une réalité. Dieu déjà habite en nous par son Saint-Esprit, et même son Saint-Esprit, il nous parle et nous dit que nous sommes ses enfants. Il y a cette attestation dans notre cœur. Et comme on est ses enfants, on a cette espérance qu'un jour, nos yeux vont le voir. On n'a plus de crainte face à la mort. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en nous, et on ne sait pas comment ça se fait, on sait seulement que c'est le Saint-Esprit qui est là et qui nous atteste toutes ces choses. Mais pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, il y a encore quelque chose qui se met en travers. Quelque chose qui est là et qui empêche que Dieu vienne habiter dans notre cœur, parce qu'il est déjà habité. Il est déjà habité par le péché, tout simplement. C'est ce que la Bible dit. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont privés de sa présence, ils sont privés de cette communion avec lui. Et notre cœur, si on considère avec toute sincérité, il est rempli de beaucoup de choses. Et pour certains, dans la Bible, il y a tellement d'exemples, j'ai pris que quelques exemples, mais vous pourrez multiplier par vous-même ces exemples, mais il y a certaines personnes pour qui le cœur est rempli de colère, d'autres, le cœur est rempli de crainte, d'autres de tristesse, ou d'autres de déception. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait rajouter à cette liste. Pour nous qui croyons en Dieu, qui avons fait la paix avec lui, notre cœur est rempli de joie, d'espérance, d'amour, de paix, de repos, et de toutes sortes de choses qui découlent de la présence de Dieu. Et quand le péché est là, il nous empêche de goûter à toutes ces choses. Et la deuxième caractéristique qui découle un peu de la première, de l'omniprésence, c'est l'omniscience. Si Dieu est présent partout, alors forcément il connaît aussi tout. Et même, on pourrait inverser aussi. Mais on ne va pas le faire. On va se contenter de dire l'omniscience, c'est quoi ? Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Et on va toujours dans ce psaume 139, verset 1er. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas venue sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Oui, quelle révélation David a pu avoir de la connaissance de Dieu. Il a pu dire qu'il savait que Dieu était trop, trop grand, trop immense. Sa connaissance de Dieu était tellement grande que lui ne pouvait pas la comprendre. Mais au moins, il avait déjà compris ça. Et c'est déjà un grand progrès. Combien d'hommes encore aujourd'hui croient qu'ils ont tellement de connaissances que s'ils pouvaient rencontrer Dieu, ils pourraient se mesurer à lui. Combien sont une vision tellement déformée d'eux-mêmes qu'ils ne se rendent pas compte de la majesté divine. Ils ne se rendent pas compte de la perfection incroyable de Dieu. Et il y a plusieurs passages qui nous montrent toutes les choses que Dieu connaît, mais Dieu connaît en particulier le nom des étoiles. Vous imaginez combien il y a d'étoiles dans le ciel ? Il y en a beaucoup. Il y en a déjà beaucoup qu'on voit. Et il y en a beaucoup qu'on ne voit pas encore. Parce que si l'univers est infini, comme les scientifiques le disent, donc il y a une infinité d'étoiles, donc le ciel devrait être entièrement étoilé. Mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Et on arrive seulement à donner des noms à celles qu'on voit, et on est obligé d'envoyer des télescopes dans l'espace et de faire toutes sortes de calculs scientifiques pour essayer d'estimer. Mais Dieu, lui, connaît tout le nom des étoiles. D'ailleurs, c'est lui qui les a placées. Au moins, c'est clair. Il les a créées, il les a placées là où il voulait, et il connaît leur nom. Mais plus que ça, il connaît notre nom à chacun aussi. Et la Bible va encore plus loin. Dans l'Évangile, Jésus dit qu'il est même intéressé, il connaît le nombre de nos cheveux. Alors c'est sûr, pour certains, c'est plus facile que d'autres. Mais Dieu, il est au courant. Dieu, il est au courant. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas de savoir le nombre de cheveux, ce n'est pas ça l'intéressant. Ce qui m'interpelle, c'est de savoir que Dieu, à chacun d'entre nous, il connaît nos vies. Il connaît en détail nos vies. Parce que connaître notre nom à les limites, on pourrait dire c'est facile. Quoique notre président, je ne pense pas qu'il connaisse le nom de tous ses administrés. Mais Dieu lui connaît le nom de tous les êtres de cette terre. Mais il va encore plus loin, il s'intéresse à nos vies. Il connaît notre passé. Il sait tout ce que nous avons vécu chacun personnellement. Il connaît notre passé. Il sait quelles épreuves on a subies, il sait les choses que les gens ont dit sur nous et qui nous ont fait mal, il sait peut-être les déceptions qu'on a eues, il sait les tristesses qui sont là dans notre cœur, il connaît les interrogations qui sont là, il connaît tout de nous. Et je pense qu'une personne qui connaît tout de nous en détail, peut-être et sûrement mieux que nous-mêmes, elle peut m'apporter quelque chose. Son conseil va être intéressant. Mais allons encore plus loin. Dieu connaît notre passé, mais il connaît aussi notre futur. C'est-à-dire qu'il sait ce de quoi va être faite nos vies en fonction du choix qu'on peut prendre. Si, d'ailleurs plusieurs fois dans la Bible, il disait « Mais je mets devant vous le chemin de la vie ou le chemin de la mort, mais choisissez la vie. » Et en tout cas, il savait que s'il choisissait le mauvais chemin, s'il ne l'obéissait pas, eh bien, ils allaient à la mort. Comme quand il a prévenu Adam et Ève, il leur a dit « Si vous mangez du fruit de cet arbre, vous allez mourir. » Et il savait pertinemment que ce qui allait se passer. Dieu connaît le futur. Et moi, ça m'intéresse de savoir déjà que quelqu'un connaît mon passé, donc il connaît tout mon arrière-plan, toutes les circonstances de ma vie, il sait tout ce qui s'est passé. Et donc, il peut me comprendre parfaitement, mais il connaît aussi mon futur. Il sait que si je prends une bonne décision, il sait ce qui va se passer, donc il va m'encourager. Mais si je prends une mauvaise décision, il sait aussi ce qui va arriver. Et alors, il va m'interpeller. Voilà pourquoi plusieurs fois dans la Bible, il dit « Mais revenez à l'Éternel, cherchez-moi de tout votre cœur, revenez à moi, humiliez-vous. » Il ne le dit pas pour le plaisir de regarder les gens s'humilier, il le dit parce qu'il connaît le futur. Que si ces personnes ne s'humilient pas, alors elles vont passer à côté de la volonté de Dieu. Dieu voudrait tellement que nous vivions dans sa volonté parce que sa volonté, elle est bonne. On l'a dit tout à l'heure, nous on connaît le Dieu bon.
On connaît ce Dieu qui est bienveillant. On connaît ce Dieu qui est plein d'amour. Et on sait que quand il nous interpelle, quand il nous parle, quand il veut nous corriger, c'est pour notre bien, comme on le fait nous-mêmes avec nos enfants. Imaginez, et ça va être facile pour Jérémy, parce qu'il a eu des poussins récemment, imaginez que vous êtes un poussin dans une coquille. Et que, imaginez, hein, ça demande un effort, je sais, mais essayez au moins, s'il vous plaît. Vous êtes un poussin dans une coquille, et le poulet qui est là, à côté, la maman poule, elle vous décrit le monde extérieur. Oui, il y a des montagnes, il y a des fleurs, il y a le ciel bleu, il y a de l'herbe, il y a toutes sortes de choses. Et le poussin dans sa coquille, il dit, ben moi je crois pas, je vois pas que c'est une réalité. Et pourtant, le jour où la coquille va se briser et qu'il va pouvoir pointer le bout de son bec au travers de la coquille, il va se rendre compte que c'est une réalité. Tout ce que sa maman poule lui a dit, c'est vrai. Mais comme il était dans sa coquille, il était incapable de le voir. Il a dû le croire sur parole, sa maman. Et Dieu nous appelle strictement à la même chose. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont visibles, mais les choses invisibles, ben, par définition, on ne les voit pas. Les choses spirituelles, on ne les voit pas. Le ciel et l'enfer, le paradis et l'enfer, plutôt, on ne le voit pas. Pourtant, Dieu, par sa parole, nous dit, attention, le ciel et l'enfer existent. Le ciel est un endroit magnifique où je voudrais que vous soyez dans ma présence. Et l'enfer est un endroit simplement, la plus simple définition de l'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'est pas, où Dieu est le plus loin, si vous voulez. Puisque Dieu est quand même partout, on l'a lu. Même si je vais dans le séjour des morts, tu es là. Mais c'est l'endroit où Dieu est le plus loin. Ces choses sont réelles. Pourtant, nous ne les voyons pas. Et le jour où Dieu va nous rappeler à lui, nous allons être amenés en jugement. Et ceux qui auront accepté Jésus comme leur sauveur, ils seront épargnés de la colère. Tandis que les autres, la colère va demeurer sur eux. Quelle colère ? La colère, le fait que ces personnes ont gardé le péché dans leur cœur. Et ont gardé cette chose que Dieu ne peut pas tolérer. Oui, Dieu connaît tout. Et il voudrait tellement que nous fassions les bons choix, et voilà pourquoi il nous a donné sa parole, voilà pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit aussi qui parle à notre cœur. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais en ce moment, le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur. Il est en train de prendre une parole qu'on a lue tout à l'heure et de l'agencer de telle sorte qu'elle puisse trouver un chemin dans votre cœur. Et vous rappeler que c'est une réalité. Un jour ou l'autre, il faudra choisir, il faudra demander pardon pour nos péchés, il faudra faire la paix avec le Seigneur parce que notre éternité en dépend. Voilà pourquoi nous voulons accepter les conseils de notre Sauveur. Oui, qui est mieux placé que lui pour nous donner des conseils ? Quelqu'un qui nous connaît parfaitement, qui connaît notre nom, mais qui connaît notre passé, notre futur, qui est le mieux placé ? Souvent, on demande conseil aux uns et aux autres, mais on ne peut pas certifier que les personnes connaissent parfaitement ce que nous vivons. Et il y aura toujours une part d'erreur dans les conseils qu'ils vont nous donner. Alors que Dieu, qui nous a suivis depuis notre naissance, et même avant notre naissance, jusqu'à aujourd'hui, il peut nous donner les meilleurs conseils. Et moi, ce qui me touche aussi, c'est que Jésus, quand il a prié, il a choisi 12 apôtres, il a prié toute la nuit, et puis il a choisi les 12. Et dans les 12, il y avait Pierre et il y avait Judas. Vous vous souvenez ? Pierre et Judas. Pourtant, quand on regarde leur histoire, on sait que tous les deux, ils ont fait une grave erreur. Il y en a un, il a trahi. Il a trahi Jésus, et en le vendant même comme un esclave. Et l'autre, il a renié devant tout plein de gens, il a renié le Seigneur par 3 fois. Et on pourrait se dire, mais quand même, Jésus, il a dû se tromper à ce moment-là. Il n'a pas dû être bien inspiré. Bon, mais non. Jésus, il savait parfaitement ce qui allait se passer. Mais moi, ce qui me touche encore plus, c'est que dans les deux, il y en a un qui a été maudit, et il y en a un qui s'est repenti et qui a été touché par la bénédiction et qui a pu être utilisé. Mais est-ce que les deux n'auraient pas pu se repentir ? Est-ce que les deux n'auraient pas pu être sauvés ? Est-ce que les deux n'auraient pas pu être en bénédiction aux autres ? Si. Sauf qu'il y en a un qui a choisi de ne pas se repentir, il a choisi de s'entêter dans son péché, et il y en a un qui a pleuré toutes les larmes de son corps, je pense, quand le Seigneur lui a parlé, mais il a pu dire « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. tu sais, tu le sais, tu connais mon cœur, tu connais mieux que moi tout ce qu'il y a au-dedans. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur, il est pareil ce soir, il nous dit la même chose, je te connais parfaitement. Je sais que tu vas peut-être faire des erreurs encore, et c'est sûr, vu qu'on n'est pas parfait. Mais si tu as cette force de dire, je vais me repentir, même si mon péché est là, devant mes yeux, je vais faire ce qu'il faut pour que, demander pardon, et je vais faire la paix avec toi, Seigneur, eh bien Dieu, comme il a été dit, il va être obligé de te pardonner, parce que du moment qu'on lui demande pardon, Dieu, il nous pardonne automatiquement. Pourquoi ? Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Et la troisième et dernière qualité que Dieu, qui caractérise Dieu, c'est que Dieu peut tout. On va relire Job, revenir à Job. Job, chapitre 42, verset 2. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. » Voilà ce que Job a pu dire à la fin de son épreuve, juste avant que Dieu le rebénisse encore plus qu'il avait été béni. Mais à la fin de son épreuve, ce qui fait que aussi Dieu a permis que ça s'arrête, c'est qu'il a vu dans le cœur de Job cette compréhension que Dieu peut tout. Rien ne s'oppose à ses pensées. Et quand on regarde les gens de ce monde qui sont dans toutes sortes de raisonnements, d'intelligence, de philosophie, il y a quelque chose qui moi, m'a frappé. Pour certains, l'omnipotence, c'est un paradoxe. Peut-être vous avez entendu parler de ça. Il y en a qui disent que si Dieu est omnipotent, alors il est capable de concevoir un rocher qu'il ne peut pas lui-même soulever. Étant donné qu'il est omnipotent, il devrait être capable de faire ça. Et sauf que s'il crée ce rocher, alors il sera incapable de soulever le rocher par définition. Vous voyez ? Et ils disent comme ça, donc il y a un paradoxe, donc l'omnipotence n'existe pas. Et moi, je vous avoue que j'ai réfléchi à cette chose. Je sais, j'ai du temps à perdre. Et en plus, j'en ai pas beaucoup. Mais je réfléchis non pas pour le plaisir, mais c'était pour avoir une réponse à donner. Et la réponse, elle m'a paru tellement évidente. C'est que la puissance de Dieu, elle n'est limitée que par sa volonté, son amour, sa sagesse et sa sainteté. Parce qu'imaginez un instant, imaginez que quelqu'un soit très très fort, très très balèze. Imaginez un homme très costaud, un Schwarzenegger qui a pris des stéroïdes, si vous voulez. Donc vous imaginez la bête. Mais qui soit tellement très costaud et, d'un côté, mais en même temps pas du tout sage ou pas du tout intelligent. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout apprendre ou pas du tout employer son cerveau pour faire certaines choses. Par exemple, il aurait un bon cœur, il viendrait jouer du piano. Mais il est tellement fort qu'il va appuyer sur les notes, il va détruire le piano. Vous voyez ? Il ouvre la porte, il lance la porte loin parce qu'il n'a pas d'intelligence. J'ai compris que Dieu, qui lui n'est pas un homme très fort, lui, il est tout puissant. Et que pour que ça soit quelque chose de bon, pour pas que ça amène la destruction, il fallait qu'il soit aussi parfaitement sage, parfaitement amour. Parce que s'il employait sa puissance de manière insensée, ben on serait dans la destruction. Vous comprenez, ça, c'est tellement logique. Voilà pourquoi Dieu est tout puissant, mais il se limite dans sa puissance en utilisant de la bonne manière. Il fait certaines choses, il ne fait pas certaines choses parce qu'il a décidé ainsi, parce que c'est bon, parce qu'il est saint, parce qu'il est amour, parce qu'il est bienveillant, etc. Et sur la terre, il n'y a pas de rocher que Dieu ne peut pas soulever. Mais, par contre, Dieu a créé le cœur de l'homme. Et il a créé de telle sorte qu'il ne peut pas, il pourrait, mais il ne veut pas le forcer. Il ne veut pas violer le cœur de l'homme, dans ce sens qu'il ne veut pas l'obliger, le contraindre à faire sa volonté. Il lui laisse le choix. Ce soir encore, nous avons le choix. Le choix de choisir de faire ce que Dieu nous demande, ou le choix de refuser. Le choix de demander pardon pour nos péchés, ou le choix de rester dans notre péché. Ce soir, nous avons le choix. En tout cas, Dieu ne va pas nous forcer. Par contre, comme il connaît tout, il va nous donner les meilleurs conseils. Repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de notre Seigneur. Par exemple, c'est un conseil qu'il nous donne. Mais il nous a aussi fait cette promesse que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, Dieu n'a pas créé un rocher qui ne peut pas soulever. Par contre, il a créé le cœur de l'homme. Et le péché a fait en sorte que le cœur de l'homme devienne une pierre, qui soit insensible à sa volonté, insensible à ce qu'il lui demande, insensible à tous ses commandements. Mais Dieu est capable de changer ce cœur de pierre et le transformer en un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est tendre, malléable, qui peut justement suivre tous les conseils qu'il va lui donner, parce que Jésus a payé le prix pour cela. Jésus a donné sa vie et jusqu'à la mort pour que nous ayons la vie. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu ? C'est la Bible qui le dit de toute façon, mais nous le croyons, que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de situation, pour chacun d'entre nous, il n'y a pas de situation trop complexe, trop difficile ou trop désespérée pour que Dieu ne puisse pas agir. Il n'y a pas de maladie trop grande pour que Dieu ne peut pas guérir. À la croix, il a pris toutes les maladies. À la croix, il a pris tous les péchés, ce qui fait qu'il peut nous guérir, il peut nous laver de nos péchés. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur, il n'y a rien qui est impossible au Seigneur, même dans nos vies. Aucune situation qu'on ne peut lui apporter dans la prière qui ne va pouvoir intervenir, parce qu'il est tout puissant. Et c'est pour ça que c'est intéressant, non seulement d'entendre parler de Dieu, mais de voir son œil. Est-ce qu'il y en a ce soir qui veulent voir Dieu tout puissant, le Dieu omnipotent ? Est-ce qu'il y en a qui veulent le voir dans leur vie ? Pas seulement en entendre parler, mais le voir dans leur vie. Alors, simplement, que vous puissiez faire cette prière dans votre cœur. « Seigneur, viens à mon secours, tu connais ma situation, tu es là, déjà, tu es présent. J'ai entendu parler que tu es omniprésent, mais je veux que tu habites dans mon cœur par ton Saint-Esprit. J'ai entendu parler que tu connais tout, mais je veux écouter tes conseils. Je veux écouter ta sagesse et je veux que ça m'apporte quelque chose pour ma vie. » J'ai entendu parler que tu es tout puissant, mais je veux que tu agisses pour moi, simplement, Seigneur. Est-ce que vous voulez dire avec moi et avec Job surtout, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je ne veux pas me contenter d'écouter des choses, mais je veux voir le Seigneur agir dans ma vie. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la foi, la grâce et la foi, Seigneur, de pouvoir te voir dans nos vies. Même si nos yeux physiques ne te voient pas, nous croyons, nous avons même cette certitude que nous pouvons te voir par la foi, dans nos cœurs, par les yeux de nos cœurs, nous pouvons te voir, Seigneur. Nous pouvons te voir tout puissant, tout présent, Seigneur, le Dieu qui connaît tout. Merci parce que tu es là ce soir et que tu connais les cœurs de chacun, tu connais le futur, tu connais le passé, tu connais nos noms, tu connais le nombre de nos cheveux, tu connais tellement de détails sur nous, que tu nous connais tellement mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais aussi la personne qui ce soir est encore là, remplie d'amertume, remplie de colère, remplie de haine peut-être pour quelqu'un, remplie de toutes ces choses qui font que sa vie est en ruine et est en lambeaux. Seigneur, tu connais tout cela, mais tu connais aussi la solution. La solution, elle se trouve en toi, en Jésus-Christ, en celui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions être réconciliés avec le Seigneur. Oui, Seigneur, permets que dans cette soirée, des personnes puissent se tourner vers toi, puissent te faire cette prière, te mettre à l'épreuve quelque part et te dire, Seigneur, je connais ton omniprésence, mais je veux que tu sois présent en moi. Je veux te voir présent dans ma vie. Je veux te voir présent dans ma situation. Je veux te voir intervenir dans mon épreuve. Je veux te voir intervenir par une guérison dans ma maladie, Seigneur. Permets que ces personnes qui font cette prière puissent te découvrir et puissent te voir à l'œuvre. Merci parce que tu nous as fait des promesses incroyables. Et c'est vrai que nos cœurs, nos corps sont tellement limités, notre intelligence est tellement petite face à ta connaissance, face à ta perfection, face à ta sainteté. Mais tu as accepté quand même, Seigneur, de t'intéresser à chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, tu bénis chacune des personnes qui est là dans cette soirée. Tu connais les prières intérieures, tu connais ce qui est dans le cœur, c'est vrai. On n'a même pas besoin de te prier à haute voix. Tu connais nos pensées, tu connais la parole avant qu'elle vienne sur notre bouche. Seigneur, alors tu interviens. Et tu réponds, parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu nous as donné le moyen d'être réconciliés avec toi en demandant pardon pour nos péchés, en croyant en ton Fils Jésus. Alors Seigneur, ce soir, tu permets que cette œuvre magnifique que tu as accomplie puisse encore toucher des cœurs. Et nous voulons te bénir parce que nous savons que tu es un Dieu grand, puissant et éternel. Amen. Amen. Alléluia.